Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ok, je te lance sur une impro. Tu rentres dans un magasin de chaussures de luxe, tu croises ton père, tu lui fais une crise.
Oh papa, tu te rends compte de ce que t'es en train de me faire là, en sandales de cuir et en chaussettes dans un magasin comme ça?
Ok, rajoute que t'es sous amphétamine.
Oh, tu te rends compte de ce que t'es en train de faire en chaussettes de cuir dans un magasin comme ça? C'est très chiant ce que tu fais. Je fais pas.
Ok, ajoute la voix de Laurent Dutch.
Hé, hey, toi t'es pas un père, toi t'es pire qu'un père, toi t'es tout sauf un père.
Allez, tu pars en Bretagne avec lui.
Allez, prends ton impère, on va à Quimper. Il faut savoir qu'à Quimper, les Mérovingiens, en 1920, en fait, ce qui s'est passé, et c'est assez impressionnant, c'est qu'ils ont creusé un métro souterrain sous Quimper.
Mais je m'en fous.
Métronome.
Je veux pas que tu me parles de ça.
J'adore ce bouquin.
M'en fous.
D'accord.
Il est drôle, Pierre Ninet, quand il passe des castings sur Canal+. Et pourtant, l'expérience qu'il vit est souvent très violente. On lui donne des ordres de manière peu aimable, et notamment celui de fermer sa gueule. Mais c'est quoi un vrai casting? Comment ça se passe? Et qu'en est-il des castings pour les femmes, pour les actrices? Comment vivent-elles cette discrimination parfois portée sur leur physique? Comment le mouvement féministe peut-il s'inscrire dans cette expérience si particulière? Et qui sont les directeurs et directrices de casting qui s'engagent? Vous aurez toutes les réponses à vos questions dans cet épisode en compagnie de Déborah Lukumwena, Lorena Tellier et Nathalie Chéron. Bienvenue dans Affiché.
Boys, take his gun.
Quand on a une plage dans la tête.
What you got between your legs is your business and what I got is mine.
You may not be able to fight like a samurai.
So fat.
But you can at least die like a samurai.
Et ne pas laisser le cinéma français tranquille.
Empieza el matriarcado.
Dracarys.
Bienvenue dans Affiché, le podcast qui parle de films, de séries à travers un angle féministe. Je suis Alix, responsable des podcasts chez Mademoiselle. Et dans le dernier débat d'Affiché, on discutait scénario et écriture des personnages féminins. Mais une fois que le film est écrit, et ben, il faut des interprètes. Et dans cette continuité, aujourd'hui, on va parler de l'expérience de casting pour les actrices en France, mais aussi pour les directrices de casting, pour essayer de mieux comprendre tous les enjeux derrière cet entretien d'embauche hyper particulier et mystérieux pour ceux qui l'ont jamais pratiqué. Pour ce débat, j'ai donc avec moi deux jeunes actrices très talentueuses, Lorena Tellier et Déborah Lukumwena, et aussi une grande directrice de casting, Nathalie Chéron. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez vous présenter en donnant en prime le nom du film ou de la série pour laquelle vous avez passé votre premier casting ou vous avez fait passer votre premier casting? Déborah.
Alors, je m'appelle Déborah Lukumwena, je suis comédienne et le tout premier casting que j'ai passé, c'est pour le film Divine.
Mais quand t'es Dieu, t'as des responsabilités. Sur tes enfants, c'est comme ça, c'est écrit. Et ben, en attendant, ils nous ont pas connus.
Les mères, c'est comme les chiens. S'ils sentent que t'as peur, ils te bouffent. Et toi, t'as souvent l'air d'avoir peur.
Non, j'ai pas peur.
Oh, tu vois que t'as peur?
Ben, t'es flippante aussi. Hein.
Et quel succès pour un premier casting. Voilà.
C'était le premier casting.
Tu venais pour être figurante, c'est ça?
Oui, j'avais vu une annonce, c'était pour de la figuration. Et aussi, après, on m'a fait passer pour le deuxième rôle. Principale, c'est la directrice de casting Sandra Durando qui m'a fait passer ce casting-là et puis après ça a été repris par Pierre-François Créancier. Voilà.
Ok, bah, ça a fini en César donc c'est plutôt... Ouais.
Sacré casting. Voilà.
Lorena.
Bonjour, du coup je m'appelle Lorena Tellier, je suis comédienne aussi. Mon premier casting et du coup mon premier film c'était Maloud de Bruno Dumont et c'est très drôle parce que c'était exactement à peu près comme Déborah, ouais de ouf. Je voulais juste chercher de la figuration et je me suis retrouvée à jouer dans Maloud, voilà une superbe aventure.
Et toi tu t'appelles comment?
Maloud.
Maloud. Qu'est-ce à dire Maloud?
Je sais pas madame, c'est comme ça que je m'appelle.
Je me souviens, je t'avais déjà interviewé, Lorena, dans un podcast qui s'appelle 20 ans d'âge, qu'on mettra dans les notes du podcast. Et tu m'avais dit qu'à la base, t'étais venue faire de la figuration pour t'acheter des baskets.
Oui, exactement. C'est parti de ça, ouais.
C'est trop mince.
Et toi, Nathalie, est-ce que tu peux te présenter?
Oui, bonjour. Donc moi, je suis Nathalie Chéron, je suis directrice de casting. Et mon premier casting, c'était Le Grand Bleu.
Quand tu plonges comme ça, qu'est-ce que ça te fait?
C'est comme si je glissais sans tomber. Le plus dur, c'est une fois en bas.
Pourquoi?
Il faut une bonne raison pour remonter.
Ah ouais.
Ah ouais.
Wow.
Respect.
Fallait commencer par elle.
Ouais.
Waouh, c'est ton premier casting.
Oui.
Wow.
Génial.
Wow. Incroyable, incroyable. Merci à toutes les trois. Aujourd'hui, on va pouvoir parler de vos expériences, on va pouvoir échanger et réfléchir comment le mouvement féministe qui s'empare du cinéma français s'inscrit ou peut s'inscrire dans l'expérience du casting. On va d'abord essayer de décortiquer la base avant de rentrer dans le dur. Donc, en quoi consiste le métier de directrice de casting ? Nathalie, je me tourne vers toi.
Alors, j'ai pris des notes avant de venir, parce que comme je suis une pipelette, c'est-à-dire que j'aime pas du tout ce que je fais. Je suis pas du tout passionnée. Donc, dès que tu appuies sur le bouton on, tu peux parler pendant 14 heures. Alors, qu'est-ce que c'est le métier de directeur de casting ? En fait, le job, c'est de proposer des comédiens, des comédiennes au réalisateur qui correspondent au personnage qu'il a écrit. Ça, en gros. Après, la route est longue, si tu veux, parce que ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire que penser qu'on va devenir directeur ou directrice de casting en 6 mois, ce n'est pas vrai. Ça, c'est du pipeau. C'est comme être boulanger, pâtissier, il faut 10 ans. Moi, je trouve, pour faire un bon artisan. Donc, il faut 10 ans pour faire un bon casting. Donc, le truc, c'est d'aller au théâtre le plus souvent possible. Moi, au début, j'y allais tous les soirs. Tous les soirs. Parce que c'est là que tu découvres les acteurs, les actrices, c'est ta base de données en fait, c'est là où tu vas les découvrir et puis les suivre hein, quand ils grandissent, quand ils vieillissent, parce que c'est des arguments après qui te servent par rapport à des réalisateurs, à des rôles, quand on te dit ah oui mais lui je trouve qu'il est trop ou elle est trop ou pas assez ou ça, ah oui mais tu l'as vu dans, non, donc voilà, moi je l'ai vu dans, donc ça c'est la base de la vie hein. C'est le théâtre. Et puis après, ça prend du temps, je trouve, pour savoir gérer. Parce que nous, on est le tampon entre le réal, la prod et les acteurs. Et gérer ces trois entités...
Oui, et puis c'est trois grosses entités voilà, avec des forts caractères.
Voilà, c'est compliqué. Et en fait, très clairement, il faut que les acteurs arrêtent de penser qu'on est des ennemis, parce qu'on est vraiment très clairement de leur côté. Moi, j'ai une collègue qui travaille en Espagne, à Barcelone, qui s'appelle Lucy Lennox. Elle a dit un truc très très juste que je reprends maintenant parce que je trouve que c'est hyper, hyper exact. C'est-à-dire que quand on commence un casting, c'est des problèmes. Et les acteurs et les actrices sont les solutions à nos problèmes. Donc les acteurs et les actrices, vous êtes nos solutions à nos problèmes. Donc on n'est pas du tout contre eux. On a besoin d'eux et on travaille pour eux, en fait. Donc voilà, il faut être curieux. Il faut aimer les acteurs.
Il faut avoir de l'empathie aussi, j'imagine, avec le réalisateur pour comprendre un peu ce qu'il veut.
Il faut avoir surtout de l'empathie pour les acteurs, moi, je pense. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est notre matière première. Donc, si t'aimes pas les acteurs, t'as qu'à aller faire du documentaire animalier ou de la pub, pour de la sauce tomate, si tu veux, sans acteurs. Mais il faut aimer les acteurs, c'est quand même dingue. C'est ça que tu vas voir toute la journée, toute ta vie, tout le temps. Puisque tu vas les caster, les faire des essais, les diriger. Donc, c'est super important. Donc, si ça te gonfle, les acteurs, faut pas faire ça.
Et pourquoi les acteurs pensent que vous êtes contre eux ?
Parce qu'en fait, le métier de directeur ou directrice de casting, c'est un mystère absolu, c'est un fantasme total. C'est-à-dire que les gens... Alors, c'est les journalistes qui te disent « Alors, vous les trouvez où, vos acteurs ?» Et alors, bon, tu vois la réponse que j'ai envie de donner ? Ça me démange tellement, en général. Mais je ne les trouve pas. C'est-à-dire que toute ma vie, depuis que je fais ce métier, depuis 35 ans, je vais au théâtre, je vois des courts-métrages, je vois des longs-métrages, je vois des tout. Et c'est comme ça qu'on se forme notre culture, notre connaissance des acteurs et des actrices. Donc ça ne s'improvise pas. Mais personne ne sait comment ça marche, en fait. D'abord, la majorité des gens ne savent pas qu'on est en grande majorité intermittent du spectacle. On est engagé par les prods pour un certain temps. Il y a quelques-uns qui ont leur boîte. Ils ne sont pas nombreux, parce que c'est vrai qu'avoir une boîte en France, c'est compliqué, ça coûte cher. Donc on est intermittent et on est engagé pour un certain nombre de semaines. Et évidemment, les semaines se réduisent d'année en année. C'est-à-dire que maintenant, quand on te donne 3 semaines pour faire un truc, genre, c'est du luxe. Alors que moi, quand j'ai commencé, un long métrage de 40 rôles, c'était systématiquement entre 8 et 12 semaines. Quoi. Parce que c'est ça qu'il faut normalement pour faire 40 rôles. Donc si tu n'as que 3 semaines pour faire un film, bah, qu'est-ce que tu fais ? Tu travailles sur ton fonds de commerce. C'est-à-dire des gens que tu connais déjà. Ce n'est pas forcément des potes. Hein. Ce que je veux dire, c'est des gens que tu connais, avec qui tu as travaillé. tu peux pas te permettre, t'as pas le temps de voir des inconnus ou de faire des essais avec des inconnus, c'est très compliqué. Mais bon, heureusement, de temps en temps, il y a des gros films qui permettent de... Enfin, voilà.
C'est dû à quoi cette réduction des temps? C'est réduction des coûts aussi?
C'est ça, ouais, bien sûr, c'est comme le reste du monde, quoi. Voilà, plus vite pour gagner plus d'argent, pour en dépenser moins. Mais du coup, c'est au détriment d'une certaine qualité, moi, je trouve. Donc, on fait le maximum, mais c'est difficile.
Et comment on devient directrice de casting? Est-ce qu'il y a des études ou,
Non, il n'y a pas d'études. Moi, j'aimerais bien, parce qu'en fait, je suis présidente de l'ARDA, l'association des directrices et directeurs de casting, donc je suis un peu hyperactive comme présidente. Et par exemple, le CSA, qui est la Casting Society of America, fait des formations pour les jeunes qui veulent devenir casting, et je trouve ça super. Alors après, c'est des formations internes, si tu veux, au CSA, mais ça veut dire que t'es un label quand même. Et moi, j'aimerais bien qu'on crée quelque chose comme ça à l'ARDA, si tu veux. Donc là, on est en train de créer un partenariat avec 1000 visages, justement, par rapport aux acteurs, mais aussi par rapport à des jeunes que ça pourrait intéresser, la direction de casting, tu vois, de les prendre en tant que stagiaires. Parce que l'idée, c'est ça, c'est d'être stagiaire avec un directeur de casting, éventuellement de passer assistant, assistante, parce que là, t'apprends le job, tu te fais un réseau, tu fais un carnet d'adresse.
Oui, c'est ça, en fait, c'est le réseau qui, voilà. Compte, qui compte.
Bien sûr.
En tout cas, c'est super intéressant comme métier. Et pour ma seconde question, eh bien, je me tourne vers nos actrices. Comment ça se déroule un casting? Est-ce qu'il y a un format type ou tout dépend du réalisateur ou du projet pour lequel on candidate?
Ouais, bah, je pense qu'il y a autant de casting qu'il y a de directeurs de casting et qu'il y a de réalisateurs.
Absolument.
J'ai passé autant des castings, je dirais, normaux, classiques. Présentation, on fait les scènes une fois, deux fois, et puis après, rentre chez toi. Et sinon, j'ai fait des castings où directement, je rencontre le réalisateur, le metteur en scène. Et là, du coup, c'est une rencontre à trois, mais sans même les callbacks, des fois, dès le départ. Et alors là, pour moi, c'est les meilleurs castings. Ou sinon, il y a d'un seul coup un directeur de casting qui va te dire quelle est ta vision du personnage, et on va vraiment échanger, etc. Et ça, c'est trop bien aussi. Ou sinon, de demander de l'impro, ça, j'adore ça. Enfin, il y a vraiment plein de manières de faire un casting et plein de durées de temps. C'est-à-dire que je sais que quand j'ai des rendez-vous après un casting, je ne sais jamais trop à quelle heure le mettre, parce qu'un casting peut durer 10 minutes, comme une demi-heure, comme une heure. Donc,
ah oui, tu sais pas...
Non, généralement, on ne le sait pas avant, ça. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ce soit pas toujours la même chose et qu'on sache pas trop dans quoi on met les pieds avant d'y aller.
Ok, ouais, c'est la surprise totale quoi, vous arrivez comme ça, sans préparation, enfin à part un texte j'imagine.
Oui, mais
sinon,
tu vois, ce qui est intéressant pour les actrices et les acteurs, c'est de faire un petit travail de recherche avant, c'est-à-dire tu vois, aller voir sur IMDB ou sur le site de l'ARDA, qui est le ou la directrice de casting qu'ils vont rencontrer, parce que tu peux voir son CV, donc tu vois le genre de film, le genre d'acteur avec qui ou elle travaille. Ça te donne quand même déjà une idée, tu vois, parce qu'on ne fait pas les mêmes films et effectivement, on ne travaille pas tous pareil. Il y a autant de méthodes que de directeur ou directrice de casting, en fait.
Et est-ce qu'on pourrait parler du casting sauvage? Parce que j'ai l'impression que ça nourrit beaucoup de fantasmes, le casting sauvage. Alors, qu'est-ce que c'est? Et est-ce que vous, on peut dire que vous avez fait partie d'un casting sauvage?
C'est drôle parce que moi, on considère, de la manière dont j'ai été prise, que c'est du casting sauvage. Parce
moi aussi,
que
ouais.
C'est... déjà, je n'étais pas comédienne. Je ne suis pas passée par les voies classiques d'agents, etc. En fait, j'ai été semi-repérée. C'est-à-dire que j'ai envoyé un mail et dans le nuage de mails, la directrice de casting l'a vu et l'a pris, en fait. Et en fait, il y a des déclinaisons de casting sauvage. Donc ça en fait partie. Croiser dans la rue et avoir un flash et dire à cette personne qui vient de passer le casting, c'est un casting sauvage. En fait, je crois, peut-être que... Je ne sais pas si Nathalie sera d'accord, mais tout ce qui n'entre pas dans le sentier classique de... du casting via l'agent, etc., tout ça. Je pense que c'est ça. Mais c'est, j'enveloppe grossièrement, quand même.
Oui, non, c'est pas... C'est assez juste. Mais en fait, le casting conventionnel, classique, on va dire, pas conventionnel, mais classique, c'est pas que les agents, c'est les écoles.
Oui, voilà.
C'est les cours. C'est même les cours amateurs. C'est les cours chez les petits. Tu vois, il y a plein de cours de théâtre pour les mômes, pour les ados, etc. Ça, on reste quand même dans un casting classique parce que là, ce sont des gens qui savent que ça leur plaît et qui vont déjà, tu vois, s'inscrire dans des endroits. Ça, c'est le casting classique, si tu veux. Le casting sauvage, c'est effectivement, comme Déborah a dit, c'est s'immerger dans une ville, comme le fait très bien Christelle Barras, pour pas la citer, qui caste les films de Céline Sciamma. Elle immerge, elle fait de l'immersion, quoi, dans certains quartiers ou villes. Pour,
ah oui, elle va chercher.
Elle passe 6 mois, ou Elsa Pharaon fait ça aussi, elle passe 6 mois en province, machin, etc., pour chercher la perle rare, qui ne sont pas des acteurs. Okay. Donc, si tu veux, moi, j'ai un problème éthique avec ça. Okay. Qui me fait peur, qui, oui, enfin, on, pas un problème. J'ai une, si tu veux, nous, on sent une responsabilité morale et éthique par rapport à des jeunes qui sont castés en sauvage, parce que la plupart du temps, ils ne sont pas encadrés après, si tu veux. Donc, ils vivent un truc extraordinaire où ils sont au centre de l'attention, on s'occupe d'eux. Puis alors, imagine, le prix va à Cannes, le film va à Cannes, ouais. Ou le film a des prix, enfin, c'est extraordinaire. Et là, si tu veux, très peu sont armés pour ce qui arrive après. Très peu sont assez entourés par des gens qui savent ce que c'est que ce métier, ce business ou quoi, pour les aider à garder les pieds sur terre. Et moi, c'est ça qui m'inquiète et qui nous inquiète d'ailleurs. On est comme beaucoup à se soucier de ça à l'Arda, si tu veux. C'est de les larguer. Et puis, on sait que ce métier peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est pas parce que tu as fait un film avec une palme ou un truc comme ça ou avec un César que tu vas faire tout. Parce que, en fait, comédien ou comédienne, c'est une vie entière. C'est pour ça que moi j'ai du mal avec le casting sauvage, parce que d'abord on sait jamais si les acteurs ou les actrices castés comme ça sont les acteurs ou actrices d'un seul film, d'un seul personnage. Tu ne l'es pas non plus, mais il y en a beaucoup en fait qui ont été castés comme ça et qui ont disparu des radars, mais complètement.
Bah moi je sais que j'ai mis du temps avant de dire que je me sentais être actrice. Quand j'étais sur Maloute, c'était vraiment une révélation où je me suis dit c'est ça que je veux faire. Mais c'est bien beau de savoir jouer dans Maloute, mais ça ne faisait pas de moi, selon moi, être actrice. Et il a fallu que... Je pense que c'est après mon troisième film, quand même, Fleuve Noir d'Éric Zonka, que je me suis dit, ah, quand même, là, je peux me permettre de me mettre l'étiquette d'actrice, parce que je pense que, voilà, la route est encore méga hyper longue, j'ai encore énormément de choses à apprendre, mais là, je commence à me sentir légitime. Et c'est vrai que Maloute, après Maloute, tu fais quoi dans la vie Voilà, je disais pas que j'étais actrice.
En fait, pareil, parce que je pensais justement à ton trajet, comme quoi il t'a fallu 3 films, etc. Moi, en fait, ça rejoint la thématique du casting. Moi, j'ai eu le temps, en fait, pendant le casting de Divine, de me demander si c'était ce que je voulais faire, tout simplement parce que ce casting a duré 9 mois.
Ah ouais, 9 mois.
9 mois, et c'est bien, parce que Nathalie, elle n'en parle pas du fait que pendant une longue durée, on ne donne pas de réponse. Mais ce casting, il a duré 9 mois, et en fait, pendant 9 mois, j'ai eu le temps, en fait, j'étais tout le temps en contact avec la directrice. Mais après, ça, c'est vraiment un cas d'école. C'est particulier à Ouda Benyamina. Elle avait vraiment besoin, pour ce rôle-là, en plus, comme j'étais pas comédienne, elle avait besoin de tester ma patience, de savoir si je pouvais attendre, si j'allais rester, etc. Donc, c'est assez particulier. Mais dans ce cas particulier, quand même, j'ai eu le temps, en fait, de m'interroger ou non pendant cette phase de casting sur est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire. Et en plus, c'était pas pendant 9 mois d'affilée qu'elle me convoquait. Il y avait déjà quelques fois, il y avait 2 mois où elle m'appelait pas. Mmh. Où je me disais, bon, c'était même un soulagement de me dire, bon, je n'ai pas le rôle, passons à autre chose. Et t'as Pierre-François Créancier qui me rappelle en disant, mais en fait, on a besoin de toi pour tester d'autres acteurs, etc. Et tout. Donc le questionnement que t'as eu après 3 films, moi, j'ai eu le temps quand même pendant le casting, mais c'est sain de se poser ces questions-là, en fait, parce que...
Et de se remettre en question.
Et de se remettre en question et tout. Et je trouve que le casting, mais même entre guillemets, à mon stade, pendant le casting, je me pose encore des questions, moi. En tout cas, c'est pas un exercice dans lequel je suis totalement à l'aise, quoi.
Ouais, j'imagine que c'est un exercice dans lequel... Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui excellent au casting. Mais c'est comme un entretien d'embauche.
Oui, mais c'est un exercice compliqué.
C'est un entretien d'embauche, quoi.
C'est un entretien d'embauche en même temps. Mais enfin, c'est très particulier, c'est très difficile. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est un moment... Enfin, moi, j'essaye d'en faire un moment sympa, agréable, accueillant. Tu vois, parce que c'est très difficile. Moi, je ne le ferai pas. Donc, d'abord, j'ai jamais voulu être actrice. Donc, je ferai pas un casting. Je trouve ça, c'est vachement dur. Mais je trouve que c'est dur. Mais parce qu'il y a un enjeu, en fait. Et donc, on se met, enfin, toutes ces petites pépettes, elles se mettent un enjeu, tu vois, de ouf. Alors qu'en fait, il faudrait y aller en disant, bon, ok, je sais mon texte, au rasoir, machin, j'ai évoqué toutes les possibilités, j'ai retourné la scène dans tous les sens, j'ai fait l'analyse de la scène, tout, je suis au taquet, j'y vais, comme disent les Américains, on the room, leave.
Ouais.
Tu vois ? Et en fait, c'est ça, ils ont raison. Et une fois que t'as fini, tu sors, si ça s'est bien passé, c'est super, si ça s'est pas bien passé, c'est pas grave, et tu passes à autre chose. il faut plus y penser.
Parce alors ça, sur sinon... le papier, oui, mais je sais pas, je parle pour mais moi, mais en tout cas...
Après le premier tour, je veux bien.
Oui, c'est ça.
Après le premier tour, je veux bien, mais quand c'est vraiment rêvé, cette manière dont elle a de décrire le casting. Et ça me fait du bien d'entendre ça, parce que c'est vraiment ce qu'on devrait se mettre en tête. C'est que après ça doit partir avec l'eau du bain, c'est oui, c'est une rencontre, ça se fait pas. Et puis aussi nous, enfin les actrices, quand on prend un nom, bon moi maintenant, mais quand on n'a pas un rôle tout de suite, ça vient peut-être toucher un petit peu l'ego, alors qu'il y a 150 raisons quand même assez quelquefois même indépendantes de nous qui font que enfin c'est tellement une phase complexe que justement je pense qu'on aurait besoin d'un peu plus de discussions comme ça avec des directeurs de casting qui nous expliquent que c'est quand même un moment en fait déjà d'apprendre qu'ils sont pas contre nous et qu'ils essayent d'en faire un moment assez confortable. Je tombe des nues mais je l'apprends, donc je dormirai moins bête grâce à Nathalie ce soir. Mais
Est-ce que t'as eu des expériences pas hyper claires?
Eh ben c'est ouf parce que j'en ai une avec Nathalie et une autre directrice de casting, mais ce n'était pas Nathalie l'élément problématique, c'était la directrice de casting où c'était un casting international, mais j'étais pas très au point au niveau de mon accent et elle a vraiment été horrible.
Ah ouais.
Le binôme de Nathalie a été horrible et Nathalie la pauvre à côté essayait justement un peu de. Elle m'a écrit après, etc. Et voilà, je l'ai revue après, cette directrice de casting qui était un peu plus douce. Mais voilà, c'était... En fait, c'est dans des expériences comme ça qui me font du mal à croire que c'est censé être agréable.
Non, alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est censé être agréable. Parce que je comprends que ça soit compliqué pour les acteurs et les actrices, bien évidemment. Moi, j'essaye de faire en sorte... que ça soit agréable, parce que je suis trop contente d'être en casting. Puis alors, en ce moment, je peux te dire, je suis trop contente, quoi. Parce que de voir des êtres humains et de faire des essais, mais youpi! Parce que le Zoom, j'en ai marre. La self-tape, j'en ai marre. Donc, mais parce que j'aime ça, en fait. Alors après, oui, bah, faut jamais oublier qu'un directeur ou directrice de casting, c'est un être humain. C'est-à-dire que ça peut avoir un bébé qui a pas dormi de la nuit, qui fait ses dents, enfin, tu vois, des tas de trucs comme ça, etc. Mais j'entends ce que Déborah dit. C'est pas un exercice... En fait, il faut le prendre comme une séance de travail. C'est vraiment important. Moi, je trouve que ça se passe bien un moment de casting. Et puis, bah, ceux ou celles qui se comportent comme des cons, si tu veux que je te dise, c'est des cons, quoi. Tu referas pas les gens. Il y a des gens bien chez nous, il y a des cons partout.
Partout, même chez les acteurs en soi, oui.
Bien sûr.
C'est juste qu'à ce moment-là, comme il y a forcément un rapport, alors il y a un rapport de séance de travail, mais il y a quand même un petit rapport d'autorité aussi. Et du coup, bon, quand ça se passe pas mal, forcément, nous on le prend au centuple, quoi, mais c'est, quand ça se passe pas bien, pardon, on le prend au centuple, mais c'est très sain, comme Nathalie décrit.
Moi, je trouve qu'il devrait pas y avoir un sentiment de supériorité.
C'est ce que j'allais dire.
Parce qu'en fait, on est intermittent aussi, nous.
C'est enfin, ça.
Tu vois, on dépend.
Ah, mais je comprends.
Moi, je pars du principe que.
Je
pars du principe maintenant que les directeurs de casting ont autant besoin de moi que moi j'ai besoin d'eux. Et du coup, quand j'arrive en casting, bah, on est exactement sur un pied d'égalité. Donc, je sens pas trop ce rapport d'autorité. Mais ce que j'aime bien en casting, c'est que du coup, quelquefois, ça me met dans des moments de fragilité ou des choses où je ne contrôle pas la situation. Et ça permet de créer des liens avec des directeurs de casting. Et je suis devenue amie avec des direcasts parce que bah, du coup, on crée des liens, des choses super fortes. Et je suis contente d'aller en casting parce que je sais que je vais les revoir et je sais que je vais être dans des bonnes conditions. J'ai de la chance, je touche du bois, mais je ne suis pas encore tombée sur des abrutis de casting où je me suis dit « plus jamais, je vais travailler avec lui ». Pour le moment, je suis tombée avec des personnes bienveillantes, mais après, je suis peut-être une exception.
Et c'est hyper intéressant cette discussion parce que dans le dernier épisode d'Affiché, donc on parlait du scénario et les scénaristes me disaient qu'elles étaient parfois un peu frustrées de ne pas avoir autant de contact avec les acteurs. Et j'ai l'impression que le cinéma, c'est un milieu dans lequel tout est assez réglementé. Chacun a sa place. Et en fait, un film, ça se fait à plusieurs personnes et pas à une seule personne.
On s'en sortirait pas.
Ouais, c'est ça. Et du coup, elle parlait de collaboration, de cohésion qui manquait parfois entre les différentes professions du milieu. Est-ce que vous le sentez aussi un peu au niveau du casting ?
Bah, je sais que par exemple, c'est drôle du coup la discussion dont tu parlais en off, c'est que par exemple, je sais, je suis tombée une fois sur un casting où c'était des rôles d'hommes, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi ce serait pas moi qui le jouerais? Ça n'a aucun sens que ce soit un homme, ça peut être une femme, on s'en fout. Et du coup, j'ai envoyé un message au directeur de casting qui m'avait casté avant, donc que je connaissais très bien. Il m'a dit, ah bah ouais en fait, bah écoute, bah viens Lorena, je vais pas dire fille, garçon, je m'en fous, viens passer le casting. Et au final, j'ai passé les essais. Le réel était assez surpris de me voir, mais en fait, voilà. Et ce genre de choses, je trouve ça vraiment super parce que j'aime bien, il y a les règles, ok, mais j'avoue que j'aime bien essayer de passer entre et de glisser comme ça et de contourner les règles quand je trouve que c'est légitime.
Mais en fait, le truc, c'est notre job à nous hein, aussi de faire bouger les lignes, ouais. Si tu veux. Mais c'est vraiment ça. Enfin, moi, ça fait des années que je fais ça parce que je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ça vient de tes ancêtres. Tu te bats pour des femmes qui ont dû essayer de faire des choses qui ne sont pas arrivées. Parce que... Mais c'est notre job de faire bouger les lignes, effectivement. C'est-à-dire, moi, ça fait 30 ans que je mets des femmes à la place des hommes. Alors, j'y arrive ou pas, c'est moins compliqué aujourd'hui que ça ne l'a été. Quand même. Et puis alors, je ne vous parle pas d'une femme noire à la place d'une femme blanche ou d'un homme blanc. Enfin, voilà, ça. Mais je trouve que là, ça y est, la porte est ouverte. Moi, j'ai mis le pied dedans, je peux te dire. Je ne vais plus jamais la laisser se refermer.
Ah ouais, tu penses...
Ah ouais, ça y est.
Bah, c'est bien d'entendre de ta bouche.
Ah si, si, je trouve que ça y est. C'est encore pas super simple. Parce que ces pauvres hommes qui sont en charge, qui sont en charge depuis des siècles, qui produisent le cinéma, qui réalisent le cinéma, qui écrivent le cinéma. C'est compliqué quand t'as une gonzesse en face qui dit « Alors, là, dans ce film, il y a 40 rôles. Il y a 35 mecs et 5 gonzesses. Donc, moi, ça m'intéresse pas. Je veux qu'il y ait... Enfin, ils sont... Alors, avant, c'était même pas envisageable. Aujourd'hui, ils te disent « Oui, oui, si, c'est bien, bien sûr, pourquoi pas. » Mais alors, il y a un moment où ça résiste, genre « Ouais, mais là, c'est bon, là, non ?» C'est bon là, tu vois. C'est-à-dire que, mais c'est normal en fait. C'est pas de leur faute. C'est-à-dire qu'ils voient.
C'est le
prisme de leur vision. Elle est la leur, masculin, fait par des hommes pour des hommes dans un monde d'hommes. Donc, moi qui suis très très virulente et très énervée là-dessus depuis que je suis née, si tu veux, j'essaye d'être plus douce aujourd'hui parce que je suis une mienne pauvre. Alors je dis ça il y a pas si longtemps à une équipe avec qui je bosse. Ils sont super en plus. Je dis mais c'est pas de votre faute. C'est parce que vous voyez le monde à travers votre prisme d'homme. Et alors j'ai vu les regards là, tu sais, là je me suis dit, oula, je vais faire marche arrière parce qu'en fait ils sont en train de se dire, elle nous prend pour des cons.
Est-ce que ce serait pas la même chose?
Toi, Déborah, t'as l'impression que ça bouge plus lentement?
Oui et non, parce que je trouve que j'en parle un peu en fait avec mes amis et j'ai une conversation il y a pas longtemps avec mon agent. De par justement mon parcours, que je trouve que mon parcours est un entre-deux. C'est-à-dire que je suis arrivée, j'étais pas comédienne, et en fait, très vite, j'ai eu accès à des choses qu'on n'aurait déjà pas pu espérer pour quelqu'un qui n'est pas comédien de base, mais encore plus pour une femme noire. C'est-à-dire que j'arrive, j'ai un rôle principal d'un film qui va à Cannes, et je suis récompensée dans un César où je suis la première femme noire à l'avoir. Donc, et la plus jeune. Donc, il y a en fait cette particularité de parcours qui me place entre les deux. C'est-à-dire que moi, je ne m'estime pas du tout arrivée, j'ai du chemin, etc., tout ça. Mais en même temps, je commence quand même à avoir... Et je t'en parlais justement dans mon mail.
Oui, quand je t'ai contactée, tu m'as dit que tu doutais de ta légitimité.
Mais bien sûr, parce que je commence déjà à avoir accès à quelques privilèges qui sont notamment les propositions de rôle, des propositions fermes, où il n'y a pas de casting, où on me glisse le rôle comme ça en disant « c'était pour toi ». Là, je viens d'en terminer un avec Gérard Depardieu, c'est une proposition, le film il a été écrit pour moi. Et en fait, ça place dans un entre-deux où il y a encore beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de films que je ne peux pas atteindre ou pas encore, etc. Que ce soit par l'écriture ou par le genre de cinéma, il y a encore beaucoup de choses qui me sont inaccessibles. Mais d'un autre côté, il y a toutes ces choses-là qui se dessinent. Même mon agent me dit, bon, t'es récompensé, donc quand même les offres, elles montent. Ton salaire monte aussi. Donc c'est un espèce d'entre-deux assez, c'est entre deux eaux.
Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des différences de traitement entre les actrices et les acteurs? Et si oui, pourquoi elles existent, à votre avis, au niveau du casting?
Bah, de toute façon, c'est clair, je te dis, moi, depuis 35 ans que je fais ce métier, sur la majorité des scénarios, je prends un exemple, hein, c'est toujours le même, 40 rôles, 35 rôles de mecs, 5 rôles de femmes. La femme du rôle principal masculin...
Sauf quand Lorena, du coup, vient se mettre à la place des mecs.
Non, mais ça, tu vois, ça, c'est un grand classique, quoi. Donc, la femme du rôle principal masculin, donc une petite quarantaine, la fille du rôle principal masculin, entre 10 et 15 ans, la maîtresse du rôle principal masculin, donc la vingtaine, 20-25, la mère du rôle principal masculin, donc la grand-mère, et éventuellement l'infirmière antillaise.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Je caricature un peu, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Et effectivement, je vous jure que c'est vrai, les 35 autres rôles, c'est des mecs. Alors que c'est des avocats, des machins, et que tu peux switcher ça mais extrêmement facilement. Mais ça y est, ça commence à bouger. Donc oui, il y a un traitement différent depuis toujours, mais dans la société, c'est pareil. Enfin, tu vois.
Et la dernière fois, je vais encore reparler de l'affiché de la dernière fois, on faisait un épisode avec Sabrina B. Karine qui a dit qu'elle faisait des efforts en tant que scénariste pour éviter d'écrire des caractéristiques physiques pour les personnages féminins.
Merci Sabrina, je la connais bien, elle est super.
Mais oui. Moi j'ai toujours dit que parce que le discours de Ouda Benyamina à Cannes, elle disait le changement il va arriver dans les postes décisionnaires.
Et que ça soit une femme qui nous ait remis le prix, quoi. C'est juste une tuerie, quoi. C'est une tuerie que ça soit une femme. Et pour que les choses, elles changent, il faut mettre beaucoup plus de gens dans décisionnaires, que ce soit des femmes, beaucoup plus de femmes, même dans les sélectionneurs aujourd'hui. Toutes les sélections sont composées uniquement que de femmes. Des femmes ! Des femmes ! Nous !
Pour moi, les postes décisionnaires, c'est peut-être les financeurs, les producteurs, etc., les scénaristes et les directeurs de casting. Je pense que ces rôles-là, ces postes-là sont justement au cœur même pour influencer justement ces changements. Et du coup, ces deux scénaristes-là qui parlent du fait de faire l'effort d'arrêter, d'ajouter des caractéristiques physiques, c'est une décision qui va justement dans ce chemin-là. Quand Nathalie dit qu'elle essaye de placer le plus de femmes, etc., c'est une décision qu'elle prend et qui va aussi dans son chemin-là. Donc, c'est hyper... Je suis trop contente d'entendre ça, finalement. Je suis trop contente d'entendre le travail de Nathalie que je soupçonnais déjà, mais en fait, elle fait un travail de sous-marin.
Oui, c'est ça. Mais on le fait tous, hein, parce qu'en plus, à l'ARDA, on est quand même très, très engagés. Hein. Au bureau aussi, si tu veux, on a mis en place des trucs, on fait des listes.
Vous êtes à plus de 50% de femmes.
Ah ouais, je pense qu'on est à 80% de femmes, je pense. Mais ça, en fait, alors après, on me disait toujours, pourquoi c'est des femmes qui font du casting? Pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes? Alors je disais, franchement, je sais pas. Et genre là, peut-être c'est parce que vous êtes plus maternante avec les acteurs. Forcément. Et alors en fait, non, je crois que j'ai compris. Enfin, en tout cas, c'est une théorie. Hein. C'est la mienne, mais c'est une théorie. En fait, je me rends compte, ça fait 35 ans que je me bats, et depuis que je suis à l'ARDA, ça fait 20 ans que l'ARDA a été créée par Stéphane Funkinos. Et donc, ça fait 6 ans qu'on a redonné un gros coup de boost à cette association. Donc, on se bat pour une visibilité et une reconnaissance de ce métier de casting, qu'on n'a pas du tout. On n'a pas de... Par exemple, les syndicats des producteurs ne veulent pas nous appeler directeur ou directrice de casting dans les conventions collectives parce qu'on ne dirige rien. Et en fait, c'est parce qu'ils ne veulent pas accepter l'idée qu'on est chef de poste. Parce que tu sais, un minimum syndical de chef de poste, ben, c'est plus qu'un minimum syndical d'assistant. Et on nous considère comme des assistants à la distribution artistique ou des trucs comme ça. Ouais, non, c'est saoulant. On n'a pas de branche au César. On est dans la branche autre collaboration technique. On n'a pas de récompense. On n'a pas de César. Moi, je fais un boulot de dingue depuis 3 ans pour m'approcher des festivals. Alors, j'ai commencé par les petits, hein, pour qu'il y ait un directeur de casting ou une directrice de casting dans chaque jury pour l'interprétation. C'est quand même dingue.
C'est minimum, ouais.
Tu vois, voilà. Bah, et en fait, la majorité des gens que tu faisais, fais « Ah bah oui, c'est pas con, j'y avais pas pensé. » Tu vois, donc en fait, il suffit de... Voilà. Et en fait, je sais pourquoi les mecs, ils viennent pas trop au casting. Parce qu'en fait, on n'a pas de reconnaissance, parce qu'on est dans l'ombre. On n'est jamais remercié. T'as vu des réalisateurs qui parlent de leur directrice ou directeur de casting dans les interviews? Jamais.
C'est plus les acteurs.
C'est exactement ce que j'allais dire.
C'est plus les acteurs. Moi, enfin, je tiens tout le temps à remercier les directeurs de cast. C'est plus les acteurs C'est une relation assez passionnelle, hein, mais c'est plus les acteurs qui remercient les directeurs de casting.
Ou quand tu commences à avoir une relation de confiance avec un acteur ou une actrice, il est bien conscient de l'énergie que tu dépenses, de la volonté, que tu lâches rien parce que tu crois dans cet acteur ou dans cette actrice et que tu te bats comme une forcenée pour arriver à lui faire monter les marches, quoi. Donc, ils en sont bien conscients à un moment. Donc, c'est pour ça qu'il y a des remerciements de la part des acteurs et des actrices aussi.
Et pourtant, on a quand même entendu parler d'un directeur de casting en particulier l'année dernière. On va parler rapidement d'Olivier Carbone, qui a réagi.
Je ne savais pas trop qui c'était, mais apparemment, c'était quelqu'un dans le casting avant Olivier Carbone.
Bah, il a fait quelques gros films.
Oui, mais enfin, bon.
Mais moi, je n'avais jamais entendu parler avant toute l'histoire. Hein. Il était inconnu au bataillon pour moi.
Quand j'ai dit ça, on m'a dit bah, quand même, c'était un gros dire de cast avant et tout.
Oui, parce que les médias ont beaucoup relayé en disant que c'était un directeur de casting de ouf.
Oui, mais les médias font pas toujours leur travail, si tu veux. Voilà. C'est un petit peu ça le problème. C'est pas parce que t'as 3-4 gros films sur ton CV, tu vois, qu'il faut tout accepter.
Oui, bien sûr. Je remets juste un tout petit peu de contexte pour ceux qui se souviendraient plus. Donc, en 2020, on lisait les mots d'Olivier Carbone au sujet d'Adèle Haenel qui avait quitté la salle des Césars suite au scandale de Polanski. Il disait « Merci Lambert, donc Lambert Wilson, de remettre les pendules à l'heure. Haenel va avoir une bonne surprise très prochainement avec une bonne omerta bien méritée qui lui pend au nez, tout ça en caps lock, pour sous-entendre qu'Adèle Haenel pourrait pâtir professionnellement de sa sortie remarquée lors des Césars au moment où venait d'être décerné le César de la meilleure réalisation à Roman Polanski pour « J'accuse ». Du coup, alors moi, je parle forcément de l'extérieur parce que je fais pas du tout partie de ce milieu, mais il y a une forme de toute puissance qui se dégage du directeur de casting.
C'est très dangereux ce qu'il fait, je trouve, parce que c'est comme si il attribuait un pouvoir de vie ou de mort au directeur de casting.
C'est ça. Ouais, c'est
et
ça.
Du coup, mais je te jure, quand t'es actrice, t'es paro, tu peux te dire ah mais un directeur de cast peut me détruire si jamais il est pas d'accord avec moi en fait. Donc c'est et en plus en s'exprimant comme ça, il a éclaboussé d'autres directeurs de cast qui se sont désolidarisés, qui sont contre justement cette image de pouvoir de vie ou de mort face à quelqu'un qui a exprimé son opinion et enfin en plus le contact est tellement plus grand et moi je trouve plus que scandaleux, moi je trouve ça dangereux ces propos-là en fait.
Oui, mais je suis d'accord avec toi, c'est dangereux parce que d'abord c'est faux. C'est n'importe quoi. En plus, nous, à l'Arda, on a pris position publiquement donc, contre ces propos-là, parce que ce n'est pas la première fois. Il y avait eu, 6 mois avant, des propos extrêmement racistes sur son compte. Oui, un truc de dingue, un truc de dingue. Donc, tu vois, ça suffit. Il n'a jamais été à l'Arda, on ne l'a jamais laissé rentrer. Donc, comme ça, c'est réglé. Mais je suis d'accord avec toi, Déborah, c'est extrêmement dangereux parce que, par exemple, l'Arda aussi a pris position par rapport au mouvement MeToo, par rapport à Adèle, qu'elle a tout notre soutien. Oui, non, l'Arda, je ne sais pas si elle soutient Corinne Maziro. En tout cas, moi, je la soutiens. Donc, mais bref, on est quand même majoritairement des filles, donc des femmes. Donc, et puis, les gars aussi suivent, quoi. Mais pour MeToo, si tu veux, on a vraiment pris position clairement en disant il faut que ça parle. Il faut que la parole se libère. Parce que ça, vraiment, en France, c'est quand même pas grand-chose, hein. Quand même,
alors et que... tu vois, mais il y a pas mal de groupes de parole sur Insta qui se libèrent. Balance ta rédaction, balance ta start-up, etc. Mais grâce à Sabrina et Marine qui étaient là la semaine dernière, j'ai aussi découvert Parole de scénariste, Parole de dire de cast. Donc ça commence à se libérer un petit peu. Tout
alors
ça,
là, nous, si tu veux, ce qui nous intéresse, c'est vraiment sur le harcèlement moral et sexuel sur les actrices ou les acteurs en prépa ou sur les plateaux. Et là, on a vraiment communiqué en disant que l'Arda soutient absolument tout acteur ou toute actrice qui va parler. Jamais on ne blacklistera un acteur ou une actrice parce qu'il parle. Jamais. C'est absurde. On ne ferait pas une chose pareille. On est tous d'accord. On est 74. Il n'y en a pas un qui blacklistera une actrice ou un acteur parce qu'elle parle de ce qu'elle a vécu ou qu'il parle de ce qu'il a vécu. Donc, c'est fou, quoi, de penser qu'on a ce pouvoir sur les actrices ou les acteurs. Alors, bien sûr qu'il y a une forme de pouvoir. Pourquoi tu montres un tel plutôt qu'une telle ? Tu vois, sur un début de casting. Ça, c'est pas rien. C'est, effectivement, c'est toi qui as le choix de dire bah, « Moi, je pensais à une telle ou à un tel plutôt que les autres. » Mais enfin, ça se limite à ça, parce que c'est pas nous qui décidons, au final. C'est jamais nous qui avons la décision finale. Alors, on peut déployer beaucoup d'énergie plein de superfuges, plein de danse du ventre, de tout ce que tu veux pour convaincre un réal. Mais si à un moment, le mec, il dit non, il dit non. Tu vois, donc on peut tout faire. On peut pleurer, se rouler par terre, mais ce n'est pas nous qui avons la décision finale. Donc avoir la décision finale de pourrir quelqu'un, enfin, faut vraiment que la personne se soit très très mal comportée. Mais c'est ça plutôt le problème.
Non, et oui, et puis même contextuellement, c'était quand même... C'était quand même très dangereux. C'est quand même une femme qui, quelques semaines avant, justement, avait témoigné de ses propres expériences personnelles. Donc, c'est, en fait, on a assisté à la gestation de ce traumatisme, finalement. Mmh. C'est presque, moi, c'est pas le sujet, mais on est face à une femme qui n'a pas su faire autrement que sortir.
C'était viscéral, quoi.
C'était viscéral. Mmh. Elle n'a pas su faire autrement que sortir. Donc, pourquoi c'est un directeur de casting qui est censé être un allié, quand même, un homme en plus, et un homme blanc, pardon, mais tout ça compte. C'est quand même, c'est presque antinomique, en fait, finalement, de s'exprimer comme ça. Et même s'il n'avait pas été. En fait, le fait qu'il soit directeur de casting rajoute encore plus à la gravité de ses propos, je trouve.
Oui, je suis super d'accord.
Je trouve. Pour quelqu'un qui est censé. Dont le travail est d'encadrer des acteurs. Dans la phase du casting, je trouve ça quand même assez...
Ah ouais, bah oui, clairement.
Voilà. De jeter en pâture un acteur, alors que comme dit Nathalie, c'est ta matière. C'est la matière avec laquelle tu travailles.
Et comment ça se gère, les refus de casting? Parce que j'imagine que toutes les deux, vous en avez eu des refus. Ça fait quoi d'être discriminée sur son physique? Parce que c'est un peu le propre du casting.
Alors, je vis les choses de manière différente... Au fur et à mesure des années, au départ, c'était très très dur d'avoir un refus parce que je pensais que c'était un refus de moi, un refus de mon jeu, un refus de ma personne. C'était très compliqué, je m'en mettais en question énormément et tout. Et en fait, là, je faisais les callbacks pour la saison 2 de la série mentale pour un nouveau personnage et j'étais du côté du réal, de la prod. Moi, j'étais prise, voilà, j'étais dans mental. Et en fait, j'ai vu que les choix finaux, ça ne se joue. Il y avait des personnes qui étaient super, mais juste physiquement, ça ne marchait pas. En termes de binôme avec moi, où ça se jouait à plein de choses, mais au-delà du jeu, etc. Et quand j'ai vécu ça de l'autre côté, je me suis rendu compte qu'en fait, les choses ne m'appartenaient pas tant que ça. Moi, ce que je pouvais faire, c'était travailler au maximum, être le plus juste possible, selon moi, être à l'écoute du casting de ses intentions de jeu, et de connaître mon texte et machin, d'être à l'heure, tout ça. Ça, c'est mon taf. Après, la décision, moi, j'y peux rien. Donc, je prends un peu plus de distance. Je le dis, mais quand même, voilà, c'est... je le dis sur le papier, etc. C'est vrai que des fois, quand je me prends un non alors que je suis en callback plus, et que j'étais à ça d'avoir le rôle, c'est pas simple, quoi, voilà. Voilà, c'est ça. C'est pas simple. Par exemple, pour donner une anecdote, j'étais en quasi-prise pour une série américaine. La casting était à fond avec moi. C'était... J'ai eu le rendez-vous avec le showrunner, le producteur, la réalisatrice, avec mon agent, tout était... voilà. Et puis au final, non, pour des raisons politiques, de trucs aux États-Unis, nanana. Et j'ai pas eu le rôle. Pour, bon, en gros, le personnage, il avait restricted growth, donc un retard de croissance. Sauf qu'une fois que j'ai été validée par tout le monde, les studios ont dit « Ah, mais en fait, non, elle est naine, le personnage est nain. Donc Lorena ne va pas pouvoir le voir. » Voilà pourquoi je l'ai pas eu. Bref, mais en tout cas, ce genre de choses, par exemple, c'est très 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 difficile. Parce que j'ai été validée par le côté artistique. Donc j'ai été validée par la réal, par tout le monde. Donc c'est quelque chose qui est tellement... Moi, je ne peux rien y faire de ça, que c'est injuste, je trouve. Et du coup, c'est très dur à accepter.
Ouais, je comprends. Toi, tu disais que le casting n'était pas totalement lié au physique, Déborah.
Bah, ça dépend. Déjà, je crois qu'il y a quelques années, un directeur de cast m'a dit que dans casting, il y a cast. Et cast, ça veut dire jeter.
Ah, en anglais. Ah oui, to cast aside.
Je te laisse consulter, Nathalie.
Google.
Mais, en fait, Lorena vient quand même, là, c'est le résumé qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de raisons en fait indépendantes, autant le physique que des raisons politiques, mais qu'aussi des questions d'alchimie, autant avec tes partenaires qu'avec le réalisateur aussi. Tu peux être parfait pour un rôle si un réalisateur peut pas te voir et qu'il se voit pas te diriger pendant 2 mois.
Ouais, c'est ça, c'est des relations de travail aussi, quoi.
C'est oui, voilà, c'est dépendant de plusieurs raisons, mais surtout pour mon cas, alors moi, comme j'ai un physique quand même très atypique, moi, ce qui vient à moi, c'est ce que je pourrais potentiellement jouer. C'est-à-dire que je vais pas me trouver dans le cas de figure de me dire, qu'on me dise, ah oui, mais d'arriver du coup comme Lorena au troisième tour, qu'on me dise, mais oui, mais physiquement, elle ne correspond pas, parce que j'ai un physique déjà tellement atypique que quand on vient toquer à ma porte, c'est que potentiellement, je peux le jouer et que mon physique ne pose pas de soucis. Donc. Mais dans le sens inverse, c'est que mon physique m'éloigne de plusieurs castings.
Ouais, bah moi,
mon physique me disqualifie de plusieurs castings, mais je commence à me réconforter en disant que finalement, ce qui me parvient est très bien, est très beau. Et puis, le revers de la médaille, c'est que, ok, tu ne corresponds pas à la norme, c'est-à-dire que quand il y a des castings très, très larges, tu ne peux pas forcément y postuler, mais à côté de ça, on écrit pour toi. On écrit des rôles
on a écrit
le rôle que j'ai eu avec Gérard, Robuste, la réalisatrice Constance Meyer l'a écrit pendant plusieurs mois que pour moi. Donc il y a des rôles sur mesure aussi. Et il y a d'autres réalisatrices qui se disent, bon, vous voyez, là je viens de faire le film d'Anaïs Volpé, où c'était censé être un duo de jeunes femmes qui avaient 34, parce qu'il y a aussi le truc de l'âge, c'est que moi je peux pas faire des rôles très âgés parce que je fais très jeune, mais elles étaient censées avoir 34 ans et être blanches, etc. Et ben cette réalisatrice, avec sa directrice de casting, se sont ouvertes et la réalisatrice a eu un coup de foudre sur mon jeu et s'est dit, bah, je vais réadapter mon personnage parce que je la veux, parce que c'est foncièrement ce que je veux pour mon rôle, et je peux capituler sur le fait qu'elle n'ait pas 35 ans et qu'elle ne soit pas blonde et que...
C'est juste que dire que cast, en fait, ça veut dire effectivement throw, cast, discard, throw away, mais ça veut aussi dire launch, initiate.
Mais ça veut dire jeter.
Mais aussi launch.
Ah, lancer.
Launch or initiate.
Okay.
Donc tu vois, c'est les deux. C'est intéressant.
Toi, Lorena, c'est pareil, t'as été écartée pour ton physique.
Ouais, bah en fait, je suis en train d'y réfléchir en même temps que tout le monde parle, mais en fait, autant mon physique est un atout, autant au départ, ça a été un inconvénient. Je m'explique. C'est un atout dans le sens où je sais très bien, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi, mais je sais très bien que j'ai peu de concurrence dans mon casting à moi. Ça, c'est une énorme force. Je connais personne, c'est pas moi qui me le dis à moi-même, hein, on me le dit, des podcastings me le disent. Je connais personne où on se dit Lorena et peut-être elle parce qu'elles peuvent se correspondre. Non, il y a moi et d'autres quoi. Donc ça, c'est un énorme avantage. Par contre, c'est un atout dans le sens où... Et là, mais je lâche pas l'affaire hein, parce que vraiment, moi, je sais ce que je peux jouer et ça m'énerve. Par exemple, il y avait un casting pour une nana qui devait être hyper séduisante et avoir un rapport au mec dans la séduction, etc. La casting, je sais plus qui c'est, dit non, mais Lorena, elle correspond pas. Pardon ? Pourquoi je ne correspond pas ? D'où je ne correspond pas ? D'où moi, je ne peux pas jouer la séduction avec des mecs ? Pourquoi ? J'ai une agent qui est super, Laurence Couder, qui me soutient énormément et qui me connaît très très bien, et qui du coup s'est battue pour que je sois en casting. J'étais en casting. C'est ce genre de choses où il y a des... En fait, je sais par exemple, mais ça rejoint exactement ce que Déborah a dit, quand ils cherchent 400 personnes, ce ne sera pas moi. Je ne serai pas dans les trucs, si c'est quelque chose de très normé, je ne serai pas dedans, sauf si je casse les codes et que j'enfonce les portes. Par contre, quand c'est des choses plus spécifiques, là, c'est bon, je sais que j'ai une autoroute et que ce sera moi. Donc, mon physique est un atout, ça a été un inconvénient pendant très longtemps, et vu que j'ai foi en ce que je peux faire, je fais en sorte que ce soit plus un atout qu'un inconvénient.
Mais en plus, je trouve que ça réconcilie avec... parce que j'y pensais tout à l'heure dans ma voiture, quelquefois, moi, je trouve que ce métier est très violent, le métier d'actrice et tout, parce que, surtout parce que c'est un métier d'image, et souvent on m'a dit, écoute, si t'es pas contente avec l'image, je vais faire du théâtre. Mais parce que c'est un métier d'image, je trouve ça très très difficile. Mais par rapport à ce qu'elle dit, justement, le fait d'être atypique et que du coup, toutes les offres qui te parviennent soient des offres adaptées à toi, moi, ça m'a réconciliée avec les autres castings normés qui n'ont pas besoin de moi, etc. Parce que je me dis chacun son truc. Et puis finalement, en n'étant pas normée et en n'ayant pas le corps, et en plus, enfin moi, je suis grosse, je suis noire, c'est quand même, tu vois, ça s'accumule quand même. Et ben même en n'étant pas dans ces normes-là, j'ai quand même des rôles trésors. J'espère qu'ils vont sortir cette année ou l'année prochaine. Mais j'ai eu des rôles trésors finalement, tu vois. Donc moi, ça m'a réconciliée avec le fait que, ouais, il y a des copines à moi. Moi, j'ai des amies comédiennes qui voient tout le temps les mêmes comédiennes dans la salle d'attente. Mm. moi je vois presque personne.
Mais non, mais non, c'est
mais,
vrai.
Non, mais je vois. Non, mais ouais. Et je suis là et à chaque fois elles me disent ouais je suis avec elle, ouais je suis avec elle, ouais je suis avec elle. Et non pas que c'est pas bon, c'est très bien. Mm. Et puis moi je pense toujours que dans le cinéma il y a à manger pour tout le monde, tu vois. Mais il y a cette différence là parce que moi je faisais le compte, j'ai dit avec qui je me retrouve souvent en casting. Ouais. Il y a pas de suivi parce que c'est soit des rôles qui sont très atypiques ou alors un réalisateur téméraire qui se dit oulala j'ai envie de sortir oulala qui dit à son dire de cast oulala va me chercher autre chose et tout, je veux voir autre chose et tout, ou alors ça a été écrit pour moi quoi. Donc ça réconcilie en fait, tu dis bah écoute, ce qui est normé, parce que moi j'avais aussi une colère par rapport à ça, par rapport au fait que certains réalisateurs ne veulent pas bouger ni bouger leur rôle ni bouger leur code, etc. Et puis justement après, en travaillant de mon côté, je me suis dit, j'ai juste réappris à respecter le fait que certaines visions ne peuvent pas être bougées, que ce réalisateur, ça se trouve, ça fait 5 ans il a rêvé son film comme ça, il a besoin que ce soit comme ça parce que ça lui fait penser à sa grand-mère Claudette, enfin tu vois, c'est non mais c'est en ça. Fait ça m'a réappris à respecter les choses. Écoute, je suis pas la bonne pour toi, je suis pas la bonne pour ton rôle, et ben j'espère sincèrement que tu vas trouver l'actrice qu'il te faut. Il y a d'autres réels qui pour qui je suis l'actrice qu'il faut, donc il y a de la place pour tout le monde. Et voilà, après je parlais avec une réalisatrice noire qui Alice Diop, qui me disait que j'aime énormément et avec qui j'aimerais travailler, et qui me disait mais Déborah, parce qu'en fait elle va bientôt tourner son premier long métrage, et elle a besoin, elle cherchait une actrice noire de 45 ans, vous vous doutez bien que je me suis renseignée. Et du coup elle faisait du coup déjà elles sont c'est un peu rare forcément, actrice noire 45 ans, c'est des Pokémon.
Ouais, parce qu'on n'a pas parlé de la discrimination à l'âge, mais
l'âge, enfin c'est voilà. Et en fait elle en faisait passer et elle m'a dit Déborah, le casting c'est rapidement les castings c'est rapidement devenu des séances de thérapie où il y en a pas mal qui se sont mises à pleurer en disant moi je passe pas beaucoup de casting, à chaque fois c'est pour jouer l'immigré, etc. Donc en fait qui était quand même halluciné de passer, parce que le rôle est ouf, donc était halluciné de passer un casting pour un rôle aussi complet et aussi voilà et fait pour une femme noire. Et elle m'a dit cette phrase qui est à la fois flatteuse mais qui est d'une tristesse incroyable. Elle m'a dit Déborah, tu es dans l'Olympe. Tu es dans les cieux, là. Tu te rends pas compte de ce que t'es en train de faire. Tu te rends pas compte de la place où t'es, parce que je vois tes aînés pleurer et en plus des témoignages des choses que des réalisateurs peuvent leur dire, des choses que des dires de cast peuvent leur dire.
Moi, j'ai été choquée. Je sais pas si vous avez vu le film Tout Simplement Noir. Il y a deux exemples de casting à un moment où c'est un homme noir qui est casté, c'est Jean-Pascal Zadi. Et en fait, j'ai trouvé le casting tellement d'une violence.
Oui, mais alors là, par contre, je m'insurge. Non, mais je m'insurge parce qu'en fait, le truc, justement, parce que le casting est un espèce de métier totalement fantasmagorique, c'est très étrange, personne ne sait comment ça se passe. Du coup, ça prend des proportions démentes, et à chaque fois qu'il y a un directeur ou une directrice de casting dans un film ou une série, c'est ou une hystérique qui jette la chaise à la gueule de son assistante, 10%. Et en fait, moi je suis présidente de l'ARDA, on est 74, et je vous jure que sur les 74, il y a quand même une majorité de gens bienveillants, quoi, qui se comportent pas comme ça. Donc ça fait chier, si tu veux, de voir cette image donnée du directeur ou directrice de casting qui sont des hystériques, malveillants. Non, mais c'est vrai qu'en général, si tu veux, à chaque fois que ce job est représenté, c'est une caricature. Et ça, oui, en plus, ça nous fait chier, quoi. Ça nous fait chier parce qu'on dépense tellement d'énergie pour faire le boulot bien, pour être correct. Parce qu'en fait, le casting, c'est quoi? C'est que de l'humain. Que de l'humain. Et en fait, c'est ça. Je voulais.
Ouais, vous êtes un peu les RH du cinéma.
Par rapport, par rapport au rejet, tu vois, au refus. En fait, le jour où tu as compris, moi je travaille beaucoup là-dessus avec des stagiaires quand je fais des stages, pour leur dire que d'abord tu peux pas tout faire, c'est pas grave. Effectivement, quand tu as compris qui t'étais, quand tu as compris l'image que tu envoies, parce qu'on fait ça même dans la vie, c'est-à-dire que pendant des années, moi j'ai pensé que j'étais trop sympa comme meuf et que tout le monde m'aimait. Le jour où j'ai compris que non, tout le monde m'aimait pas forcément parce qu'en fait je les saoulais, parce que j'étais trop loud, trop, tu vois. Ça change la vie, quoi.
Oui.
Donc c'est pareil pour un acteur ou une actrice, c'est-à-dire se voir et comprendre qu'en fait c'est ça que t'envoies, ça change aussi ton comportement. Et en fait, c'est pas grave, parce qu'il y a des choses qui sont pas de votre ressort. Comme tu disais très justement, moi j'ai vécu des trucs en casting avec le réal, un réal ou des réalisatrices. On se dit non, putain, elle ressemble trop à mon ex-belle-mère, je peux pas regarder, et ça m'y fait trop penser. Ben voilà, c'est aussi con que ça quelquefois. Ouais. Donc tu vois vraiment, et oui, effectivement, tu vas passer une semaine, deux jours ou six semaines avec une actrice ou un acteur, et t'as pas envie de passer six semaines avec ton ex-belle-mère. C'est aussi con que ça.
Et toi, Lorena, dans notre interview dans 20 ans d'âge, tu m'avais dit carrément que le cinéma t'avait aidé à t'aimer toi-même physiquement.
Oh bah carrément. Bah alors là, ouais, vraiment. Moi, je sais qu'au collège, etc., c'était très compliqué le fait que je sois, que je rentre pas dans les codes tout simplement, et je le vivais pas méga super bien. Et du coup, je m'étais formé une espèce de carapace, un espèce de truc, voilà. Et quand j'ai fait ma loute, quand j'ai fait mes autres films après, je me suis rendu compte que mon physique était un atout et quelque chose de potentiellement beau. Et du coup, je sais pas trop comment en parler, mais en tout cas, c'est vrai que je m'aime, je m'assume et je me sens super bien dans mes baskets, aussi grâce à l'image que je renvoie et grâce au rôle que je joue, que je trouve infiniment intéressant et très beau, quoi. Donc du coup, c'est vrai que le regard qu'ont apporté sur moi les réalisateurs, les réalisatrices, les directeurs de casting, etc., m'ont permis, moi, d'évoluer, de grandir et de devenir la jeune femme que je suis aujourd'hui. Ouais.
Waouh. Bah écoutez, je trouve que c'est une super manière de terminer cette discussion avec vous. C'était super agréable. Je voudrais juste, avant de terminer, que vous me donniez, enfin que vous imaginiez ou que vous me racontiez une expérience de casting idéale, qu'elle ait été réelle ou non. Déborah, je te laisse commencer.
Lorena a dit un peu tout à l'heure, c'est vrai que déjà c'est plus intéressant quand il y a le directeur de casting et le réalisateur présent. Et comme Nathalie l'a décrit, que ce soit une séance de travail où on oublie l'enjeu et où je pourrais moi m'oublier totalement et juste donner le maximum que je puisse en fonction de la vision que j'ai du rôle et pouvoir sortir en me disant, au moins j'ai donné tout ce que j'avais à donner, au moins j'ai laissé ce que j'avais à laisser, et allez à Jacques Thaïs. Vraiment.
Lorena ?
Je vais parler du coup du casting rencontre de mon dernier film, qui est le film de Mélanie Laurent, donc avec Mélanie Laurent. C'était assez incroyable parce que du coup c'est Richard Rousseau le directeur de casting, et j'ai pas passé de vrai casting en présentiel, c'était une rencontre avec Mélanie qui voulait me rencontrer. Et du coup, Richard était là un peu en soutien dans la pièce d'à côté. Et j'ai rencontré Mélanie, et Mélanie m'a dit « Lorena, qu'est-ce que tu veux jouer? Qu'est-ce que tu veux pas jouer? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît pas? Est-ce que tu te sens capable de faire ça, de faire ci ?» Donc du coup, on a échangé pendant une heure. Et à la fin, elle me fait « Ok, bon bah, on part ensemble ?» Je dis « On part ensemble, c'est-à-dire là maintenant tout de suite, on y va ?» Elle fait « Oui, oui, bah, laisse-moi le temps, je vais réécrire un personnage du coup. » Et puis on y va, quoi. Et voilà, et ça, mais c'est tellement agréable que...
Ouf.
C'est tellement agréable qu'elle me fasse confiance comme ça, que juste je lui dis « Oui, Mélanie, je suis capable de faire ça, je vais réussir à faire ça », et qu'elle me dise « Ok, bah c'est parti ». C'est tellement, je me suis fait tellement agréable que c'était une rencontre folle. Et puis le tournage était incroyable. Donc l'ambiance de la rencontre s'est immergée dans l'ambiance du tournage. Donc c'est vraiment un très très bon moment, quoi.
Et toi, Nathalie ?
Bah, moi, je suis de l'autre côté. Alors évidemment, tous les castings pour moi sont idéaux quelque part. Mais en fait, je voudrais dire un truc, tu vois, parce que par exemple, quand Déborah et Lorena disent c'est bien quand le réalisateur est là, en fait, je vais vous dire, pour nous, c'est pas bien sur la première vague.
Je m'en doute.
Mais oui,
doute.
Parce qu'en fait, le fait qu'il soit pas là à la première vague, ça nous permet, ça nous autorise d'élargir les propositions à mort. Parce qu'en fait, si tu montes les photos à un réel, la plupart du temps, il fait « Ah ouais, non, c'est pas... » Oui, mais c'est qu'une photo. Mmh. Oui, mais non. Donc en fait, nous, on fait notre cuisine d'abord, on filme d'abord et on élargit à mort. C'est là que, tu vois, moi, en ce moment, je suis sur un truc. Alors bon, c'est un jeune terroriste. Bon, d'accord. Sauf que j'ai filmé une jeune terroriste, une très jeune terroriste noire. Et puisque ça se passe au Mali, et quand le réel a vu au milieu des garçons cette jeune fille, c'est diffusé quand le podcast, parce que ils savent pas encore les garçons qui sont pas pris. Bon, ça va, je vais les prévenir.
Non, mais non, c'est ça, tes mails de refus là.
Oui. Bah, c'est-à-dire que je dis merci beaucoup d'être venu et en fait, voilà, si tu veux, merci, puis à une prochaine fois.
Attends, j'ai une question pour les mails de refus.
Bon, alors attends, voilà. Et en fait, quand j'ai montré la petite, parce que vraiment, c'est un bébé, hein, elle a 19 ans, je l'ai rencontrée dans une école et je me suis dit, putain, elle est prête, quoi. Trop mortelle. Et ils étaient quatre gars à regarder, ils ont fait, ah ouais. Et vendu, quoi. Donc ça, tu vois, et ça, j'aurais pas pu le faire parce qu'en montrant la photo avant, je suis pas sûre que ça serait passé. Mmh. Alors que là, j'ai fait les essais directs, on a travaillé, machin. Et c'est... Donc c'est vrai que moi, je préfère quand le réel est pas là au début. Hein.
Mais oui, par mais contre, qu'il soit là au callback. C'est très égoïstement que je dis ça. C'est parce
oui,
que
je sais bien.
J'ai en tant qu'actrice, j'ai envie qu'il puisse me renifler bien tout sûr. De suite.
Mais toi, t'es dans une position où c'est bon, en fait. Tu vas avoir accès à ça directement maintenant. T'as plus besoin.
Inch'Allah. Enfin, tu vois, Inch'Allah, ça, tu vois, c'est un entre-deux, tu vois. Mais oui, ouais. Je comprends.
Après, moi, je trouve que même quand t'es dans une position où tu t'es plus obligé de faire des castings, moi, je trouve que c'est très intéressant pour les acteurs et les actrices de venir faire le casting. Tu sais pourquoi ? Parce que déjà, tu vas renifler aussi le mec pour savoir si t'as envie de passer 6 semaines avec lui ou avec elle. C'est très important, ça. Tu vois ? Moi, je trouve aussi. Hein. Tu vois, mais c'est surtout quand tu te bats pour une idée et que c'est validé. L'appel à l'acteur ou à l'actrice, mais c'est là, c'est le kiff total. Tu vois ? Alors surtout quand c'est pas attendu. Ouais. Tu vois, parce que moi, la petite, quand je l'ai appelée pour lui dire, en fait, tu sais quoi, on va faire un rendez-vous, tu vas venir, tu vas rencontrer la réelle parce que c'est toi qui vas le faire. Je pense que là, j'avais un lapin dans les phares d'une voiture, au bout du fil, c'est-à-dire que...
Plus d'images.
Tu vois, elle s'y attendait tellement pas, quoi. Donc ça, c'est des moments super heureux, quoi.
Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé tout ça
merci
avec les auditeurs et auditrices d'Afficher. Et merci à vous trois d'être venus, c'était trop cool.
Merci beaucoup.
Merci à vous aussi, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode d'Afficher. S'il vous a plu, abonnez-vous au podcast pour recevoir toutes les notifications et laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir. Parlez-en aussi autour de vous. Comme vous savez, on est friande du bouche à oreille. Et rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Afficher.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.